Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans « Elles ont osé », proposé par Les Échos. Elles ont osé et elles ont réussi. Elles, c'est nous, nous audacieuses, ambitieuses, résilientes, expertes, puissantes, courageuses, peu importe, nous, telles que nous sommes, libres d'être nous-mêmes avec nos choix, nos actions, notre impact. Dans ce podcast, vous entendrez le regard croisé de deux femmes inspirantes qui ont su saisir les opportunités de la vie. Deux parcours, deux chemins qui forcément se croisent. Vous découvrirez leurs moments clés pour aller toujours plus loin, être à leur juste place, guidés par leur envie de contribuer à un monde meilleur. Merci d'être avec nous. Je suis Marie-Éloi, entrepreneure et présidente de plusieurs réseaux. Femme des territoires, pour créer son entreprise. Bouge ta boîte, réseau business pour les dirigeantes. Et bouge ton groupe, pour accélérer les carrières des femmes dans les organisations. Aujourd'hui, je reçois deux entrepreneurs qui prônent le self-love, c'est-à-dire d'être fiers de soi-même tel qu'on est, l'une grâce à nos cheveux, l'autre par nos mots. Deux entrepreneurs d'influence et chacune leader française dans leur domaine. Bonjour Kelly Massol.
Bonjour.
Alors vous êtes la fondatrice et CEO des Secrets de Loli, le numéro 1 français des cosmétiques naturels pour les cheveux à texture, ondulés, bouclés, frisés, crépus. Les Secrets de Loli ont été lancés en 2009 dans votre cuisine avec un constat. 6 personnes sur 10 dans le monde n'ont pas les cheveux raides et pourtant 90% des produits sont pour cheveux raides ou pour se lisser les cheveux. Aujourd'hui, les Secrets de Loli, c'est 17 millions d'euros de chiffre d'affaires, 23 personnes, une gamme de 17 produits en vente partout, dans 2500 points de vente, coiffeurs, monoprix, parfumerie, pharmacie, dans 12 pays européens et bientôt même aux Émirats Arabes Unis. Il se vend ainsi 3 produits par minute. C'est aussi une communauté de 210 000 fans sur Instagram et une campagne éclatante dans le métro parisien, vous l'avez peut-être vu, My Hair, My Power. Bonjour Nina Ramen.
Bonjour Marielle.
Vous êtes la queen du copywriting avec un W, c'est-à-dire l'art de susciter l'engagement par les mots. Vous êtes la fondatrice de la manufacture du copywriting et du mouvement Ramen ta fraise qui vient de votre nom, Ramen, pour que davantage de femmes publient sur LinkedIn. Vous faites partie des top influenceuses LinkedIn avec 70 000 followers et 1 million de vues par mois. Vous militez aussi pour le solo entrepreneuriat. Vous l'êtes vous-même et comme d'ailleurs la très très grande majorité des entrepreneurs, une réalité qui est souvent invisibilisée. Lancée il y a un an, la manufacture du copywriting, c'est en moyenne 25 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Vous éditez également une newsletter qui s'appelle Culotté, qui compte 30 000 followers et un podcast Transformer les mots en euros, parce que parler cash, c'est aussi votre credo. Ensemble, Kelly Massol, Nina Ramen, j'espère qu'on vous donnera envie, à vous qui nous écoutez, d'accepter la grande aventure d'être vous-même, comme le disait si bien Simone de Beauvoir. Nina Ramen, Kelly Massol, je vous propose de partager avec nous chacune un moment clé, celui qui vous a fait prendre un premier virage dans votre parcours. Puis nous échangerons en regard croisé sur vos parcours respectifs et nous terminerons par un portrait chinois. Kelly Massol, on commence avec vous. Vous avez grandi en région parisienne avec une première partie de vie qui est pour le moins difficile. Vous vouliez être avocate, mais vous n'aviez pas d'autre choix que de commencer à travailler très jeune. Comme vous êtes spécialisée en télécommunication, vous travaillez pour les plus grands opérateurs. Vous prenez à leur goût au forum, au blog, et un jour, vous décidez de lancer le vôtre, et c'est tout un nouveau monde qui s'ouvre. Est-ce que vous pouvez nous partager ça ?
Oui, effectivement, par une nuit d'insomnie, j'ai décidé donc de créer mon propre forum sur Internet.
Toute jeune, hein ?
Toute jeune, je devais avoir tout juste 20 ans. Et le forum s'appelait le forum Boucle et Coton. Boucle pour la texture bouclée et coton parce que souvent, les cheveux crépus, on compare à cette texture à celle du coton. Et parce qu'en fait, tout simplement, je traînais beaucoup sur Internet. J'ai été une addicte d'Internet dès les premières heures, avec les forfaits à 50 heures que tu dépasses, le modem 56K, etc.
Qui fait du bruit.
qui faisait du bruit. Et du coup, je traînais sur des forums et je me rendais compte que beaucoup de femmes discutaient finalement de beauté en ligne, de se donner des conseils, des recommandations. Et il y avait aussi un forum qui s'appelait à l'époque Black Jewels et qui discutait de beauté féminine, de beauté afro. Mais par contre, sur ce forum, je voyais qu'il y avait deux clans, en fait, finalement. Un clan qui cherchait à s'occuper de ses cheveux au naturel et qui était un petit peu perdu, et un clan qui cherchait à entretenir ses cheveux qui étaient défrisés. Donc par cette nuit d'insomnie, en fait, voyant qu'on n'arriverait jamais finalement à trouver de consensus entre les deux, j'ai décidé de créer le premier forum francophone dédié à l'entretien du cheveu naturel. Et je me rappelle, notre slogan à l'époque, c'était « La beauté noire n'existe pas sans entraide ».
Vous le créez et c'est un immense succès très vite. Il y a beaucoup de personnes qui s'identifient et surtout vous découvrez tout un univers qu'en fait vous n'êtes pas la seule.
Alors oui, sur ce forum, non seulement on a parlé de maternité, de beauté, d'astuces. On a parlé aussi de livres, tout simplement. Et puis, on se rendait compte, au fur et à mesure du temps, 1000 personnes, 2000 personnes, 3000 personnes, jusqu'à plus de 15 000 personnes à gérer à l'époque, avec toute une équipe de modération, des milliers et des milliers de postes, voire même, on voyait à la fin, des personnes de grands groupes qui venaient faire leur veille directement sur le forum. Et le forum a non seulement fait naître des vocations, mais aussi, pour pouvoir avoir un impact dans la vie réelle et pas uniquement en ligne, nous avons créé une association à l'époque qui s'appelait l'association Bouclé Coton. Et nous essayions à l'époque de faire en fait des happenings, surtout dans certains quartiers où on n'hésitait pas à aller porter nos afros et nos t-shirts pour essayer de porter la bonne parole, entre guillemets, sur des quartiers comme Château Rouge en disant aux femmes « Tu es en train d'acheter du défrisage, mais tu as une alternative, tu peux acheter telle huile ou tel produit. »
Oui, parce que les cheveux crépus, bouclés, etc. ont été martyrisés depuis toujours par les produits, par les outils, c'est ça, hein ?
Exactement. Dans l'association, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de représentation finalement du cheveu afro ou texturé en France et même limite dans le monde. Quand on allait sur des bases, des banques de données en fait pour à récupérer des photos, il n'y avait pas de photos de femmes noires avec leurs cheveux naturels ou de femmes métissées, etc., etc. Et donc en fait, on a à l'époque fait des actions où on invitait les gens tout simplement à venir se faire prendre en photo et on leur demandait les droits en fait sur la photo et pour pouvoir illustrer nos articles et nos propos parce que sur le net, on ne trouvait pas de photos de femmes noires au naturel.
Et vous vous rappelez du premier moment où vous avez lancé le forum, le blog, comment vous vous sentiez ?
Oui, je me rappellerai toujours. J'ai créé le forum, j'ai créé toutes les catégories par cette nuit d'insomnie. Et puis en fait, il était vide et je me suis dit, mais comment je vais faire pour gérer ça ?
Et donc, pour ramener du monde.
Et pour ramener du monde. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai appelé trois personnes à l'époque, dont une qui s'appelle Zala Wakanitu de l'Atelier Tortille, qui est aussi entrepreneuse et qui a aussi une petite marque artisanale aujourd'hui. Et je leur ai dit, voilà, j'ai créé ça, je ne sais pas quoi en faire. Donc, est-ce que vous voulez venir m'aider ? Et en fait, elles sont venues, on a structuré une équipe de modération et puis on a commencé à draguer sur Internet, sur les forums, les sites, etc., etc., les gens, puisqu'à l'époque, je rappelle que Facebook et Instagram n'existaient pas.
Et du coup, vous décidez de mettre la main à la pâte parce que les produits que vous souhaitez pour vos cheveux n'existent pas en France, même ailleurs d'ailleurs.
Alors, sur le forum, pendant des années, on s'est donné des conseils et des astuces sur des recettes de grand-mère, sur des recettes artisanales, sur des crèmes ou des cires qu'on faisait parce que, justement, on ne trouvait pas de produits adaptés. Il y avait une rubrique aussi sur le forum qui permettait, en fait, de décrypter toutes les compositions cosmétiques. C'est-à-dire, une participante arrivait et puis elle disait, voilà, j'ai acheté tel produit, est-ce qu'il est bon ou est-ce qu'il est mauvais ? Et donc, nous, en fait, on avait fait une sorte de lexique avec les meilleurs ingrédients, avec les ingrédients à éviter, etc., etc., pour apprendre, en fait, la beauté noire n'existe pas sans entraide, mais c'est surtout la beauté noire doit être totalement autonome en fait, pour faire des choix responsables, choisir si on décide de se défriser ou choisir si on décide vraiment de les entretenir au naturel. Et donc pendant des mois et des mois, j'ai en élu des centaines et des centaines d'étiquettes, des centaines de compositions.
Experte.
Je suis devenue experte sur la lecture en tout cas des compositions. Et puis au bout d'un moment, on a essayé de faire des actions auprès de plus grands groupes. Quand on voyait qu'une, par exemple, enfin, je ne sais pas si on peut le dire, mais il y avait certaines marques qui avaient un produit au karité et dedans il y avait de la silicone et le silicone là n'avait absolument pas sa place. Donc avec l'association, on a tous imprimé le même courrier, on a signé en demandant de faire retirer la silicone. Et c'est ce qui s'est passé. Plusieurs mois plus tard, ils ont changé la formule, ils ont enlevé le silicone. Mais j'en avais marre d'être dépendante finalement toujours de quelqu'un. En fait, ma beauté était dépendante de quelqu'un d'autre que moi-même. Et donc au bout d'un moment, je me suis interrogée en me disant mais comment on fait un produit cosmétique ? Parce que eux, ils savent pas le faire correctement. Donc moi, je vais le faire. Et comme on n'est jamais mieux que servi que par soi-même, allons-y. C'est comme ça qu'est née la marque. En tout cas, dans mon esprit.
Et donc, dans votre cuisine ?
Dans ma cuisine, en fait, à l'époque, avec une jeune fille du forum, on était devenus colocataires. C'est pour vous dire à quel point le forum nous a rapprochés. Et donc, dans ma cuisine, elle m'avait appris à faire ma première crème. Et puis, au bout d'un moment, je me suis passionnée, en fait, finalement, pour la savonnerie artisanale au tout début, c'est-à-dire la saponification à froid, qui est un mélange de soude caustique, d'eau et d'huile végétale pour créer le vrai savon et non pas le savon industriel qu'on nous vend aujourd'hui. Et donc, en fait, je me suis intéressée par ce processus, ce procédé chimique. Et en fait, la magie a opéré lorsque j'ai créé mon premier savon. Et ensuite, après le premier savon, j'ai voulu savoir comment faire ma première crème, mes premières émulsions, Et en fait, c'est comme ça que j'ai mis les mains dedans et je n'ai plus jamais retiré mes mains de là.
Et vous n'avez pas fait de business plan, rien du tout. Vous avez commencé, c'est ça ?
Alors, j'ai d'abord commencé par tout simplement faire des crèmes pour moi, ensuite pour les filles du forum, ensuite pour les collègues, la famille, etc., etc. Et puis, au bout d'un moment, quand l'intégralité de votre maison, en fait, ressemble à une parfumerie, bah, vous vous dites, il faut que je fasse quelque chose. Donc, soit je le monétise, soit il faut que j'arrête parce que ça n'a plus été possible. Et à l'époque, c'était très facile de se lancer sur Internet. Donc, j'ai créé ma propre boutique en ligne et puis je me suis lancée. Par contre, j'ai eu, dès le début, la volonté en fait, de ne pas me casser la figure, entre guillemets. Donc, 50% de mon stock de matières premières servait à faire les produits cosmétiques que je vendais. Et les 5 autres % de matières premières étaient revendues brutes. À l'époque, il y avait des femmes qui cherchaient justement des matières premières brutes. Et en fait, le stock d'un me permettait de financer l'autre.
Et donc rentable depuis le premier jour, vous travaillez en même temps pendant à peu près 2 ans, vous travaillez même à la Sécurité sociale, vous avez lâché votre emploi pour vous mettre à temps complet fin 2010 et lancer les secrets de Loli.
Alors est-ce que j'ai lâché volontairement ? Je ne suis pas sûre. On m'a poussée un petit peu dehors parce qu'ils ont très bien fait, ils n'ont pas trop apprécié effectivement. Pour moi c'était un hobby au tout début, ils n'ont pas trop apprécié, donc du coup j'ai été souvent convoquée, etc. Mais je ne pouvais pas lâcher cette passion, pour moi c'était de l'air. C'était incroyable, je savais qu'il y avait quelque chose à faire et j'étais passionnée. Donc pendant 1 an et demi, effectivement, j'ai eu les fesses entre 2 chaises. J'ai ouvert ma première boutique en fin 2010 et là, j'ai quitté la Sécurité sociale pour me lancer pleinement.
Nina, à vous. Alors vous êtes née à Paris, vous avez fait des études scientifiques parce qu'on vous a dit toute votre enfance que vous étiez nulle en orthographe, alors qu'en réalité, vous êtes dyslexique. Vous commencez donc une fac de médecine, ce n'est pas votre chemin, donc vous faites une année de césure pour apprendre la scène avec le cours Florent. Et puis vous vous redirigez finalement vers des études d'ingénieur chimiste, que fait un peu Kelly maintenant. Petit clin d'œil d'ailleurs, c'est que votre premier stage se déroule chez L'Oréal. Vous testez des produits capillaires.
Exactement. C'est marrant parce que dans le discours de Kelly, je reconnais énormément de choses que j'ai découvertes, mais plutôt sur la partie études que j'ai faites, que j'ai fait des études scientifiques. Donc je suis ingénieure en chimie et j'ai fini mon stage chez L'Oréal à faire des produits de soins capillaires. Justement.
Mais pas pour les cheveux texturés ?
Alors, pas pour les cheveux texturés, non. Peut-être que si ça l'avait été, j'aurais peut-être continué dans cette voie pour le coup, parce que je trouve que ça va beaucoup plus loin que ça. Mais pour le coup, oui, j'ai fait des études de chimie, donc rien ne me prédestinait à la base à faire un métier dans l'écriture et avec les lettres, en fait.
Justement, ça ne vous plaît pas trop, les produits capillaires, pour le coup. Donc vous cherchez vainement un emploi pendant quelques mois et un jour, vous recevez un mail qui vous propose de devenir chasseuse de tête pour scientifique.
Oui, exactement. Alors effectivement, oui, c'est vrai que je me sens pas très à l'aise dans l'entreprise dans laquelle j'étais. J'étais chez L'Oréal. Finalement, moi, j'étais stagiaire. Donc bon, bah les projets sur lesquels je travaillais m'enthousiasmaient pas énormément. Il faut dire les choses comme elles sont. Et quand je termine ce stage chez L'Oréal, je suis chez moi un vendredi après-midi. Et comme beaucoup de gens qui finissent leurs études, je cherche du travail. Et à ce moment-là, il y a un recruteur qui m'appelle, qui me dit « Hey, est-ce que tu veux être chasseuse de tête ?» Je dis « Mais hey !» T'es sûr que t'as lu mon CV ? Parce que moi, j'ai pas du tout un background de RH, j'ai pas fait d'études du tout là-dedans. Et il me dit, oui, en fait, on cherche des profils scientifiques qui vont aller recruter d'autres profils scientifiques. Parce que vous, entre scientifiques, vous vous comprenez.
Et du coup, pour les attirer, c'est là où vous tombez dans l'amour des mots pour réaliser des annonces à impact. C'est comme ça que tout commence.
Tout à fait. Alors, quand j'étais petite, j'étais dyslexique. Il faut dire que la dictée, c'est quand même une des seules épreuves à l'école où on peut avoir des notes négatives. Nulle part, on peut avoir des notes négatives à part en dictée. Donc, à force d'avoir des moins 20 en dictée, j'ai commencé à intégrer le fait que j'étais mauvaise avec les mots. Et c'est comme ça que j'ai fait des études scientifiques parce que j'avais intégré ce... C'est un peu une prophétie autoréalisatrice. Et donc, quand je me retrouve chasseuse de tête, il faut savoir que quand tu dois approcher un candidat, en fait, la première chose que tu fais, c'est par écrit. Ce qu'on fait, c'est on envoie souvent soit un email, soit un message sur LinkedIn. Et ça, bah, je me suis rendu compte qu'en fonction du message que j'envoyais, j'avais plus ou moins de réponses. Donc si j'envoyais
Salut, opportunité professionnelle, technicien en chimie, région parisienne, salaire à déterminer. Bon, il y avait à peu près une chance sur 10 que la personne me réponde. Par contre, si j'écrivais un email qui était personnalisé, là, ça marchait tout de suite beaucoup mieux. Donc, je suis passée de un taux de réponse de 1 sur 10 à un taux de réponse de 9 sur 10. Rien qu'en changeant le texte.
Et donc, vous commencez à aller de plus en plus sur les réseaux sociaux.
Exactement.
Vous faites votre premier post sur LinkedIn.
Je me retrouve à quitter le recrutement, mais je me retrouve quand même avec LinkedIn entre les mains. Parce qu'à l'époque, c'est là où je dois approcher les candidats, c'est là où je dois faire de l'identification de CV. Donc, je me retrouve avec un outil qui était à l'époque un peu... Une grand-mère, quoi. C'était à l'époque la prise en main de LinkedIn, il n'y avait quand même pas grand-chose dedans. Ce n'est pas l'écosystème business qu'on peut connaître aujourd'hui. C'était quelques fonctionnalités et puis une ou deux personnes qui se battaient en duel pour publier. Et donc moi, au moment où je me mets à publier, bah, il n'y a personne d'autre que moi, clairement, ou que quelques influenceurs. Et donc ce post, je l'envoie et ça fait mais tout de suite des milliers de réactions. Moi, je me retrouve très vite dépassée, clairement. Il y a des messages qui affluent dans tous les sens. Et là, donc, il y a deux éléments qui me viennent en tête. La première, oui, c'est vrai que l'écriture, c'est bien quand on veut faire de la relation individuelle, mais c'est encore mieux quand on arrive à diffuser un message au grand public. Et donc, il y a trois choses que je conclue de ça. La première, c'est que tu peut être dyslexique ou en tout cas pas écrire parfaitement et quand même avoir quelque chose à dire et quand même avoir un message qui peut être lu, entendu et auquel des gens peuvent adhérer.
Tout le monde peut s'exprimer.
Voilà. La deuxièmement, c'est que Internet a permis d'abaisser les barrières à l'entrée. C'est-à-dire que, au même titre, on peut lancer une boîte avec un forum, bah, on peut aussi prendre la parole avec LinkedIn. C'est un peu la même chose. La barrière à l'entrée, il te faut un ordinateur, un clavier. Donc ça, c'est important. Et la troisième chose, bah, c'est que finalement, moi, c'est quelque chose qui me plaît. Je me rends compte que les mots, bah, alors qu'à l'école, on m'avait dit que c'était pas pour moi, là, je me dis, bah, peut-être que j'ai intégré qu'à la base, moi, j'aimais bien écrire. Je me souviens, quand j'étais petite, je me rappelle que j'aimais bien. Mais j'ai fini par intégrer le fait qu'on m'ait dit, bah, là-dedans, t'es nul. Donc, ça vaut pas forcément le coup.
Oui, moi, j'ai fait le même travail, mais sur les chiffres. Le premier moment où votre poste décolle vraiment, c'est quand vous parlez du télétravail, vous adressez à toutes les personnes, en fait. Ça concerne tout le monde et c'est avant le Covid.
On est bien avant le Covid. Et moi, je dis, écoutez, en fait, quand on embauche quelqu'un, on embauche des compétences, on embauche un savoir-faire. Mais là, aujourd'hui, moi, dans le métier que je pratiquais, j'avais pas forcément besoin d'être présente et je me sentais très enfermée. Le fait de devoir arriver à une certaine heure et partir à une certaine heure, c'est quelque chose qui m'oppressait. Et aujourd'hui encore, j'ai créé un environnement de travail qui me permet de plus travailler dans ces conditions-là. Mais à l'époque, juste, je prends la parole et je dis, bon, bah voilà, moi, le télétravail, je pense qu'on devrait beaucoup plus diffuser le télétravail. Et moi, Nina, je pense ça. Mais vraiment de manière tellement simple, sans forcément essayer de faire un effet de levier ou quoi que ce soit. Juste, je prends position sur un sujet qui est clivant. Hein, parce qu'il y a des gens qui vont dire qu'ils sont radicalement contre le télétravail, des gens qui vont être radicalement pour. Mais il se trouve que c'est un sujet qui divise. C'est un sujet sur lequel tout le monde a un avis. Et c'est ce qui fait que le poste prend. Et en dessous, bah, y a des commentaires, des gens qui me disent « oui, c'est vrai, t'as raison », des gens qui me disent « non, pas du tout ». Donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de voir à quel point ça pouvait résonner.
200 000 vues cette fois.
Sur le télétravail, j'ai dû en avoir 200 000 à peu près.
Nina Ramen, Kelly Massol, vous ne vous êtes jamais rencontrés avant aujourd'hui, je crois, mais vous avez un point commun qui me frappe, c'est que vous avez su transformer vos faiblesses en force. Avant d'échanger sur vos moments clés d'entrepreneur, est-ce que vous accepteriez de partager sur ce point? Kelly Massol, vos cheveux, c'était compliqué. Nina, vous, c'était les mots. Et vous êtes devenue leader dans ces domaines. C'est ça? Vous avez su transformer vos faiblesses en force, Kelly?
Oui, totalement. Je pense que je n'ai jamais correspondu à une case prédéfinie. Et donc, du coup, ça a été très difficile d'évoluer dans un monde parisien, dans une famille extrêmement modeste, avec une histoire familiale compliquée, être en surpoids, avoir la peau foncée, enfin, être une femme noire, hein, finalement, avoir les cheveux bouclés. Sur le papier, ça ressemble plus à, entre guillemets, à des tares qu'à des qualités. Et en fait, finalement, non, c'est l'une de mes plus grandes forces, c'est justement d'être une femme noire, d'avoir évolué dans un monde d'adversité qui font qu'aujourd'hui, rien ne me paraît insurmontable. Et je dirais même plus, je me délecte de chaque situation compliquée, entre guillemets, qui arrive parce que je me demande quel est le challenge que je vais arriver à relever et est-ce que je vais m'en sortir. Et c'est ce qui donne du piment à ma vie aujourd'hui.
Et vous savez que vous réussissez à chaque fois à les surmonter. Pas à chaque fois, mais vous réussissez globalement. À les surmonter, c'est ça?
Disons que si je n'y arrive pas, au moins j'en tire une bonne leçon qui me permettra d'attaquer des dossiers bien plus gros. Et justement, je pense que c'est ce qui fait que On se plaint souvent de l'adversité, des obstacles qu'on rencontre, hein, alors que ces obstacles-là ne feront de vous une meilleure personne, qui appréhendra des situations bien plus compliquées et plus difficiles avec beaucoup plus de facilité, qui font qu'à la clé, vous aurez le succès que vous méritez à la fin.
Et vos cheveux, c'était compliqué ?
Mes cheveux, c'était plus que compliqué. Je me rappelle même de fois où je m'effondrais en larmes ou que je refusais de sortir. Donc ça te bloque même socialement. Tu refuses de sortir parce que tu n'es pas coiffé correctement, parce que tes cheveux ne sont pas coopératifs aujourd'hui. Et j'apprécie aujourd'hui de transmettre en fait un amour de soi et un amour de cette texture à d'autres femmes pour qu'elles ne vivent pas ce que j'ai vécu finalement pendant mon adolescence.
Et vous, Nina ?
Oui, les mots, il a dicté. C'était un rapport qui était compliqué parce que les gens font peu la différence entre le fond et la forme. Alors qu'à l'inverse, tu peux avoir des choses très intéressantes à le dire, mais pas forcément avoir la forme pour le dire.
J'adore.
Et ça rend un monde très élitiste. C'est-à-dire que l'orthographe a été volontairement complexifiée à certains moments dans l'histoire française pour la rendre moins accessible à une certaine catégorie de personnes, c'est-à-dire des personnes qui étaient les moins éduquées. Et aujourd'hui, ben, en fait, on en fait un enjeu de discrimination, c'est-à-dire de dire, ben, de toute façon, tu fais des fautes d'orthographe, t'as pas le droit à la parole, ce que tu dis n'est pas intéressant. Et donc ça stigmatise toutes les personnes qui n'écrivent pas facilement et ça ne leur donne pas la parole. Or, les paroles s'envolent, les écrits restent. Et ils sont pas fous à l'Académie française. Quand ils ont complexifié les choses, ils ont bien compris qu'il y avait un enjeu de pouvoir dans l'écriture. Mais c'est aussi cette confiance en soi de se dire, bon bah ok, en fait, je mérite la parole et que je prends. D'ailleurs, on dit prendre la parole. Ça impose qu'on le fasse par soi-même.
Un autre point commun justement entre vous deux, c'est l'impression de départ quand vous avez débuté que votre business se trouvait dans une niche, c'est-à-dire un tout petit marché, alors qu'en fait, l'une comme l'autre, ça s'adresse à la majorité des gens. Les cheveux bouclés crépus, on l'a dit, hein, sont plus nombreux que les cheveux raides dans le monde. Et vous, Nina, les femmes représentent la moitié de l'humanité pour poster sur LinkedIn. Et vous l'avez compris tout de suite. Et les solos entrepreneuriat, de la même manière, finalement, vous étiez visionnaire alors qu'on vous disait « mais non, il n'y a pas de marché, l'une comme l'autre ».
Oui, c'est vrai que d'un côté, il y a cette sensation pendant des années d'avoir été précurseuse. Et du coup, quand on parlait d'action, en fait, tout à l'heure, c'est exactement ça. Si vous êtes persuadé de faire quelque chose qui est adressé, qui a un marché, qui a vraiment une raison d'être, n'attendons pas que quelqu'un veuille bien vous adouber. J'en ai rien à faire, en fait.
Vous n'avez pas réussi à avoir des prêts, par exemple.
Je n'ai jamais eu de prêts, je n'ai jamais eu de financement. Je suis restée 13 ans en autofinancement. Donc, ce n'est pas la question. Par contre, ce qui est intéressant, c'est le fait de ne pas rechercher l'approbation des autres. Au bout d'un moment, j'ai cessé de m'excuser d'être moi-même, j'ai cessé de m'excuser d'être comme je suis et je pense que ça a marqué un tournant aussi dans mon business qui a fait que j'ai scalé à un moment et que j'ai explosé.
C'était progressif ou vous en avez pris conscience ? Vous vous êtes dit « j'arrête de m'excuser d'être moi-même »
Ça a été à la fois progressif et d'un coup, en fait, il y a eu un clash. D'un coup, en moi, il y a eu cette volonté de dire, en fait, j'emmerde le monde, je suis comme je suis sincèrement désolée, je vais la refaire. parce qu'en fait, finalement, je ne changerai pas, on n'a qu'une seule vie, et donc autant la vivre à fond et la vivre sous mon prisme et pas sous le prisme des autres. Et ça vaut pour mes cheveux, ça vaut pour mon corps, ça vaut pour plein de choses. Ce qui est très intéressant, et je pense que ce qui est fou aujourd'hui, c'est que moi, je n'ai jamais eu peur de m'exprimer en public. J'ai une parfaite élocution depuis toute petite, je ne sais pas pourquoi. Et on m'a dit, cette voix-là, en fait, ça se trouve, tu l'as non pas pour chanter, parce que ma mère et mon frère et beaucoup de personnes de ma famille sont des artistes, mais la tienne, c'est peut-être pour communiquer des mots qui vont frapper chez les autres. Donc ça, c'est très important. Et de l'autre côté, je déteste LinkedIn. Donc là, depuis tout à l'heure, je me dis, mais je n'étais pas sur LinkedIn jusqu'à il y a 3 mois. Je ne postais rien jusqu'à il y a 3 mois. Mes équipes m'ont forcé. J'ai pris une équipe de communication qui formule mes posts. Mais ils ont bien compris, en fait, que mes mots, ce sont mes mots. Donc, ils les font valider, revalider, survalider. Parce que le ton ne me plaît pas. Parce que pour moi, l'impact des mots est important. Et si c'est juste pour venir se vanter en disant « j'ai fait ceci, j'ai reçu tel prix », ça ne m'intéresse pas. Donc, du coup, ils ont une triple validation de ma part. Les pauvres, je les malmène un petit peu. Mais voilà, pour moi, je sais que le poids des mots est extrêmement important. Je sais que en choisissant juste un mot, on peut faire vriller une situation. Et c'est là où je pense que la clé finalement de mon évolution et peut-être de l'évolution de Nina, c'est justement le choix des mots.
Et je vais juste rappeler un chiffre, parce que moi, la visibilité des femmes, évidemment, c'est très important pour moi et pour les équipes. Dans les personnalités les plus médiatisées en France, dans la catégorie qui nous intéresse, hein, patron, business,
1% de femmes médiatisées. Donc j'espère qu'après l'écoute de ce podcast, vous aurez envie, comme Kelly et Nina, de prendre la parole. Comme vous l'avez dit, Nina, prendre la parole. On va passer à vos moments clés dans votre parcours. Est-ce que vous pouvez partager avec nous un moment qui a été un peu magique? Kelly, je crois, c'est quand votre marque a commencé à décoller en 2009. Premier salon de Noël. Comment ça s'est passé?
Alors, je pense que finalement, c'est la première fois où je suis allée à la rencontre du public et je suis sortie de ma cuisine et de mon site internet. Donc, il y a eu une sorte de petit marché de Noël qui a été fait chez June Shop, qui était une petite boutique dans le 18e arrondissement, avec Nelly qui avait invité en fait différents créateurs. Elle était elle-même créatrice donc de vêtements elle avait invité, et c'était d'ailleurs des femmes, à venir partager, vendre leurs créations. Nelly, paix à son âme, parce qu'elle est décédée il y a 2 ans, mais c'était quelqu'un qui donnait vraiment des opportunités aux autres. Et donc je me rappelle, j'avais ce petit meuble, j'ai d'ailleurs une photo souvenir, et j'avais exposé mes premières bougies, mes premières chantilles, mais finalement mes premiers produits. Et premier jour, j'ai bien vendu, deuxième jour, j'ai bien vendu, troisième jour, rupture de stock. Donc je rentre chez moi le soir, je refabrique. Ça a duré une semaine dans le marché. Donc, troisième jour, donc rupture de stock. Je fabrique pour le quatrième, je fabrique pour le cinquième, parce que tous les soirs, rupture de stock. Et les 2 derniers jours, je disais malheureusement aux gens, je suis désolée, j'ai plus rien, mais prenez ma carte ou commandez sur le site internet. Parce que j'avais plus rien, même plus de matières premières pour fabriquer. Et c'est là où j'ai su que, c'est la magie de Noël. Et deux, c'est là où j'ai su que vraiment je faisais quelque chose qui avait un intérêt et un sens.
Et vous, Nina, ce premier moment magique?
Oui, le premier moment magique, c'est quand j'étais dans le top 10 des personnalités les plus influentes sur LinkedIn et que dans ce top 10, je vois qu'il y a seulement 2 femmes. Donc 20%. Et là, je comprends qu'il y a un problème que j'avais pas du tout conscientisé à ce moment-là. Et je décide de faire un contenu gratuit. Donc c'était un live qui a duré 1h30 où j'enseignais tout ce que je savais de la prise de parole sur LinkedIn et ailleurs d'ailleurs. Et c'est un live qui était destiné majoritairement à des femmes. Dans ce live, il y a eu à peu près 800 personnes. Moi, je délivrais mon contenu, j'expliquais comment il fallait faire. Enlève 10% quand tu relis. Je disais, fais des phrases simples, sujet, verbe, complément. Voilà. Bon, je donnais mes astuces, quoi, de ce que je savais. J'expliquais l'algorithme de LinkedIn. Bon. Et je me rendais pas compte de ce qui se passait dans les commentaires. Et pendant ce temps-là, dans les commentaires, elles faisaient un peu leur vie, un peu comme le forum, en fait, finalement, on maîtrise pas tout. Et donc, pendant que j'étais en train de parler, elles sont toutes motivées. Moi, je leur avais dit, il faut faire un challenge d'écriture, et le mieux, c'est que vous le fassiez en groupe. Pourquoi? Parce que la force du groupe, le soutien les unes et les autres, c'est ça qui va vous aider à aller le plus loin possible et à durer dans le temps. Et ce dont je ne me rends pas compte, c'est qu'elles se sont auto-organisées pour créer un groupe et s'entraider dans ce groupe.
Pendant que vous parliez.
Pendant que moi je parlais. Donc moi je ne savais absolument pas ce qui se passait à ce moment-là et elles ont nommé ce groupe Ramène ta fraise.
De votre nom Nina Ramène.
De mon nom Nina Ramène. Alors il est certain que j'aurais jamais choisi ce mot et ce nom si j'avais dû choisir le nom de ma communauté.
Parce que c'est quelque chose que vous connaissiez, on vous avait déjà dit ramène ta fraise.
Ah à l'école, c'est clairement le truc qu'on me disait pour me charrier, quoi. C'était vraiment ramène ta fraise par-ci, ramène ta fraise par-là. Et donc là, quand les gens ont choisi un nom de groupe, finalement, en faisant ça, elles ont pris le pouvoir, elles ont fait par elles-mêmes. Et donc ce groupe a commencé, ma communauté a commencé à exister comme ça. Et donc de la même manière que Kelly, ce que disait Kelly tout à l'heure, c'est marrant. C'est un groupe où aujourd'hui, il y a presque 3000 personnes dessus. Au début, il y en avait 100, 200. Et ça a fait effet boule de neige. Elles se sont entraidées et aujourd'hui, c'est plus seulement un groupe de femmes qui s'aident à prendre la parole. Aujourd'hui, c'est un groupe de femmes qui s'aident à faire du business. Et c'est ça que je trouve plus intéressant. C'est que par la prise de parole, on devient visible. Par la visibilité, on se fait connaître. On fait connaître son expertise. On n'est plus identifié comme étant juste sur des sujets un peu sympas, marrants. Non, c'est en fait, je suis Nina, je suis Kelly et je suis experte. Je suis CEO dans mon business. Moi, je fais tant. Et on est sur des domaines où on est identifié comme des expertes. Et elles se passent du business entre elles et c'est un terreau ultra fertile. Aujourd'hui, je suis très très fière parce que il y a des collaborations qui se créent et qui naissent dans cet écosystème. Moi, je suis même pas au courant de ce qui se passe. C'est-à-dire que le groupe m'a dépassée, la communauté m'a dépassée et c'est magique parce que je me rends compte que moi, j'étais l'étincelle de quelque chose et qu'aujourd'hui, ce quelque chose m'a largement dépassée et existe sans moi presque.
Alors, on a fait un live LinkedIn ensemble parce que j'organise des lives régulièrement et j'ai des femmes des territoires et des bougeuses de Bouge ta boîte qui faisait partie du groupe Ramène ta fraise et qui était enthousiaste de ce live. À l'inverse, est-ce que vous pouvez partager avec nous
le pire moment de l'entrepreneuriat pour vous. Nina, je crois que c'est quand vous avez voulu embaucher une alternante.
Oui.
Votre première alternante, c'est le pire moment.
Oui.
Alors, et c'est une erreur qu'on peut faire facilement.
Donc pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas, alors il faut savoir que j'ai créé ma boîte il y a une petite année, ça a décollé très très vite. Et un jour, je décide de prendre quelqu'un pour m'accompagner sur la création de contenu. Moi, je suis quelqu'un qui enseigne beaucoup, qui transmet. Donc l'alternance, pour moi, c'est vraiment... je me suis dit que c'était un mode de fonctionnement qui me convenait très bien. Je décide de déléguer une partie du process, pas de recrutement, mais admin, à mon assistante. Et donc, je recrute moi la personne. Je lui dis « t'es validée », elle est super contente. Elle pleure tellement elle est contente. Vraiment, je suis... Enfin, je pense vraiment avoir trouvé la bonne personne. En plus de ça, elle avait déjà un petit blog où elle publiait un peu pour les femmes. Donc vraiment, c'était le profil parfait. Et pendant ce temps-là, donc j'avance aussi sur la partie administrative. Et un moment, donc je me retrouve en copie d'un échange entre mon assistante et l'expert comptable. Et je vois une pièce jointe. J'ouvre la pièce jointe et je vois le salaire à donner à une alternante en fonction de son âge. Et donc, moi, je me dis, OK, bon, ben, moi, j'avais prévu une enveloppe pour payer. Après, je suis une boîte où, bon, ben, j'essaie de faire attention, je suis quand même au début. Et donc, j'appelle mon assistante et je lui dis, mais dis-moi, est-ce que t'as vérifié l'âge ? Ben, non. Et elle m'avait fait un budget à 200 euros par mois parce qu'il y a des aides de l'État, donc il y a à peu près 8000 euros d'aide, plus toutes les subventions que je pouvais avoir. Parce que je suis en création d'entreprise, etc. Donc, ça me donnait à peu près un budget de 200 euros par mois. Et finalement, le budget est passé de 200 euros par mois à pratiquement 1000 euros par mois. Donc, en fait, il faut sortir un SMIC et avec les aides de l'État, c'est à peu près 600 euros. Et donc, sur l'année, c'était une erreur à 12 000 euros.
Et quand donc, on démarre, c'est énorme.
Voilà. Donc, moi, c'était beaucoup, sincèrement, par rapport à mon... Bah, je fais une boîte qui fait 250 000 euros, je suis toute seule. Enfin, voilà, juste le fait d'embaucher, pour moi, c'est énorme. Parce que, comme vous l'avez dit au début, je suis plutôt... solopreneuse. Là, je me suis dit, bon, on essaye. Et je me retrouve donc avec une ardoise de 12 000 euros. Là, pour le moment, j'en suis au stade où j'en ai parlé avec l'alternante. Et je lui dis, bah voilà où est-ce qu'on en est de la situation. J'ai totalement déverrouillé le truc parce que elle aurait pas compris, en fait, que je panique ou que moi, je mette des exigences, peut-être qu'elle l'est pas, etc. Et donc, j'en ai parlé et elle m'a dit, écoute, Nina, mon profil a les avantages de ses inconvénients. Donc, entre guillemets, oui, j'ai plus de 30 ans et oui, il faut me payer le SMIC et je trouve que c'est largement OK, quoi. Mais l'avantage de ça, c'est que j'ai 5 ans d'expérience. Et donc finalement, bah, je vais délivrer et je vais faire beaucoup plus que ce qu'une autre personne pouvait faire. Donc là, j'avais 2 choix et j'en avais parlé à pas mal de gens autour de moi. Qu'est-ce que tu aurais fait à ma place ? D'autres entrepreneuses. Et 90% des gens m'ont dit, écoute Nina, t'es pas totalement engagée avec elle. Elle a pas encore démarré son alternance. Tu peux toujours lui dire non. Et moi, j'ai dit non, mais en fait, je me vois pas faire ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de lui en parler et qu'elle m'a dit, moi, je suis à fond. Et je lui ai laissé la possibilité. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux faire ? Et elle m'a dit, non, moi, je veux rester avec toi. Et moi, ça m'a réengagée avec elle parce que je me suis dit, OK, en fait, moi, j'ai pas envie de la lâcher. C'est elle que j'ai choisie au début. Et c'est pas grave. Et en fait, on se débrouillera à deux pour faire en sorte que la boîte, elle dégage ce chiffre et pour faire l'argent, en fait. Et le but, je me suis dit, c'est pas de diminuer les coûts. C'est aussi de faire en sorte de générer plus d'argent. Et c'est un changement de mindset que j'ai fait avec elle. Et c'est ça aussi, on a vécu, on a traversé cette épreuve ensemble, en fait. Et c'est en lui parlant qu'on a recommencé à réfléchir et on s'est dit, OK, alors tu sais quoi, on va faire comme ça, comme ça, comme ça. Et on a développé un plan d'action. Alors c'est à deux, c'est pas à l'échelle de 25 personnes, quoi. Mais ça a été ma première grosse frayeur et je dirais que j'ai pas dormi pendant une semaine parce que mon entourage me disait, mais écoute Nina, tu devrais lui dire ciao, quoi. Et moi je me disais, mais je me vois pas dire stop à quelqu'un comme ça, en fait c'est injuste, quoi. Je peux pas faire partie de ce truc là que je combats aussi, de me dire mais en fait non, c'est pas possible. Donc voilà, donc on verra bien comment ça va se passer.
Ça, c'est des frayeurs classiques dans l'entrepreneuriat. Kelly, vous, c'est avec une apprentie.
J'ai pas la même story avec mon apprenti. Hein.
C'est pas les mêmes montants, mais je pense que...
Alors, effectivement, moi, ma boîte, elle a été fortement impactée en juillet 2019. Et en fait, il y a eu un écosystème qui s'est effondré. Et effectivement, il y avait une jeune apprentie que j'ai récupérée. Elle venait de Martinique. Elle avait postulé, elle avait fait un stage chez nous. Ça s'était très bien passé. Donc, du coup, elle voulait rester. Et elle a trouvé une école. J'ai financé en partie son école. Donc, jusque-là, tout va bien. C'est une apprentie avec qui puis on a bien travaillé pendant 2 ans. Enfin voilà, ça se passait bien, c'était fluide. Moi, je suis assez créative. Elle s'occupait de tout ce qui était partie communication. Donc, elle faisait de la communication pour nous, plus du graphisme. Et donc, en fait, les premiers posts sur les réseaux sociaux, les illustrations, ce genre de choses. Et puis, quand on a voulu commencer à upgrader le game, en fait, chez Secret de Loli, début 2018, elle était là. Et donc, du coup, à ce moment-là, j'ai décidé de passer de la marque artisanale, qui est fabriquée à la main avec des étiquettes qu'on collait à la main, au tube, en industrialisant mon process. Et à ce moment-là, à l'époque, et ça c'est quelque chose que la personne a oublié, mais quand on cherche à faire des choses parfois un peu malhonnêtes, on a la mémoire courte, je lui ai montré une photo d'inspiration d'un packaging, et je ne pouvais pas l'oublier ce packaging parce que c'est le packaging de Carol Daughter, une marque aux US qui est détenue par Lisa Price, qui a été rachetée entre 200 et 400 millions de dollars par L'Oréal, et qui a commencé dans sa cuisine dans le Bronx il y a 30 ans. Pour moi, c'était...
Comme vous, quoi.
Non, mais c'était
votre
mon modèle.
Cuisine américaine.
C'était mon modèle. D'ailleurs, on s'est rencontrés depuis. Elle m'appelle sa petite sœur française, parce qu'en plus, on se ressemble physiquement. Donc, c'est vraiment tragique. C'est comme s'il y a eu 2 personnes sur 2 continents qui ont fait des choses avec quelques années d'écart. Enfin, c'est incroyable. Et donc, du coup, je lui montre une photo et je lui dis, voilà, tu vois, il y a une tache colorée et je veux un watercolor parce que j'aime le watercolor, etc., etc. Et donc, je la guide comme ça. Et puis, du coup, on change le packaging des produits. Et les 2 ans passent et puis je sens que mon service communication est hyper tendu, marketing communication entre ça N1, elle et leur stagiaire. Je sens que quand je viens à mon boulot, c'est moi qui suis trop. Je me sens mal à l'aise à mon bureau où je passe par 50 phrases pour demander quelque chose. Est-ce que tu crois qu'il serait possible de... Et du coup, tu te dis, mais attends, tu te sens pas bien, tu t'as créé ta boîte pour te sentir mal. Bref. Ça, N1 décide de négocier une rupture conventionnelle, pas de souci, voilà. Et puis, la N1 part. Et le lendemain, en fait, commence notre nouvelle responsable de marketing, qui s'appelle Amélie, qui est exceptionnelle. Et donc, elle se présente à l'équipe. Et le lendemain, tout le monde se met en arrêt de travail, dont l'apprenti. L'apprenti reste non seulement en arrêt de travail tout le mois de juillet, ainsi que tout le mois d'août, jusqu'au, il me semble, 17 octobre. 17 octobre, dernier jour de son contrat d'apprentissage, auquel je reçois le matin même un recommandé d'un avocat me demandant 80 000 euros pour de la propriété intellectuelle.
Donc je pour la création des packagings.
Pour la création de ce packaging. Donc le Covid est arrivé mars 2020.
Plus personne dans vos équipes ne travaille.
Alors plus personne ne travaille. En fait, je me suis retrouvée avec un service vide. Juste moi, mon directeur commercial et l'assistante. On n'était que 3. Tout le service est parti. Donc l'apprenti était en arrêt et elle m'a envoyé ce document. La N1 était partie, voilà. La stagiaire qui s'était permis de se mettre en arrêt, on l'a remerciée. On a appelé l'école, on lui a dit, faut pas déconner. Au bout d'un moment, faut se calmer. Vous savez, l'effet de groupe, de meute, qui se pose des questions, qui se dit, il y a une tête à abattre ou la poste, elle est pas sympa.
La pomme vérolée qui a
contaminé toutes les autres. Mais je m'attendais vraiment pas à ce coup-là parce que la personne avait 21 ans. Hein, quand même, 80 000 euros, je ne suis pas là pour financer ni ta voiture, ni ton futur appartement. Je me suis effondrée, sincèrement. Je pleurais toutes les larmes de mon corps parce que c'est plus une trahison. Je connaissais ses parents, j'ai appelé ses parents pour prendre de ses nouvelles pendant son arrêt maladie en me disant « Est-ce que ça va ?» Parce qu'il y a eu beaucoup de travail, donc je comprends peut-être que c'est les 2 derniers mois et qu'elle n'en pouvait plus. Alors qu'en fait, non, il y avait un courrier qui était en préparation pour pouvoir m'attaquer en justice pour la propriété intellectuelle. Propriété intellectuelle qui est extrêmement vicieuse en France. C'est vraiment il faut que ce soit carré et que ce soit blindé. Du coup, 2 ans de procédure, 24 000 euros de frais d'avocat, tout ça pour qu'elle finisse par perdre et qu'elle soit condamnée donc à payer une partie de mes frais de justice. Ce que j'ai adoré, c'est quand ils ont eu le culot de me demander ce qu'on appelle un contrat de confidentialité pour que je ne raconte jamais cette histoire parce que vous comprenez, elle a une jeune carrière, ça va être compliqué pour elle. Alors que moi, pendant 2 ans, j'ai dû faire rechanger mes packagings intégralement, donc voilà. Et puis j'ai dû aussi jeter certains packagings et j'ai eu des courriers qui me pressionnaient en me disant que si je lui donnais pas son argent finalement, ils allaient faire mettre en scellé le stock alors que c'est le produit qui compte et pas le packaging. Bref, donc durant la procédure, j'ai retrouvé beaucoup d'échanges où on voyait que ce n'était pas un travail individuel mais un travail de groupe et un échange. Et surtout, cette photo que j'ai prise à mon usine un mois avant qu'elle commence chez moi et qu'elle commence la refonte des packagings, et c'est ça qui m'a sauvée. Donc c'était la période la plus tragique que j'ai pu vivre.
Vous avez failli perdre l'entreprise.
J'ai failli perdre l'entreprise, on n'était plus que 3, on n'a rien dit à personne, la 4e est arrivée, elle n'a pas de service à gérer. Mais ce qui s'est passé finalement, c'est que ça nous a donné envie de recruter des gens sur leur mindset. et plus uniquement sur le résultat ou sur ce qu'ils vous vendent ou sur le CV. Et donc, en fait, Amélie, elle est arrivée avec une communauté en juillet 2019 de 15 000 followers où on croyait qu'on avait pété les scores. Et aujourd'hui, rien qu'en organique, avec le travail de fourmi qu'elle a fait ces deux, bientôt trois dernières années, et on en est à 210 000 followers. Donc, ce ménage m'a fait un bien fou. On a scalé. C'est la première année, on a scalé. On est passé de 1,8 million d'euros de chiffre d'affaires. On a fait notre premier million, en fait, cette année-là. Et depuis, la marque s'est envolée.
Il y avait du sang neuf, en fait. Ça a permis de tout remettre l'état d'esprit d'origine, votre ADN, etc.
Ça m'a permis de redevenir maître chez moi, de ne plus faire de concessions, en fait. Lorsque je demandais quelque chose, on m'objectait. Et du coup, j'arrondissais les angles. Et c'était toujours mi-figue, mi-raisin. Toujours une température un peu trop contrôlée, plutôt d'aller dans le feu de ce que je veux faire quand je veux le faire à fond, ou trop d'ambition, ou on n'aura jamais le temps, cet esprit négatif ou défaitiste, alors que quand tu es passionné par le sujet, tu peux abattre des murs et des murailles et monter des montagnes finalement. Et donc ce 109, c'est un flambeau qu'on repasse à chaque personne qu'on fait rentrer dans la boîte. Et aujourd'hui, bah, en fait, on a une équipe hyper soudée, mais qui s'adore. C'est vraiment un monde de bisounours. Mais par contre, on est tous motivés par quelque chose qui est finalement bien plus grand que nous. Et c'est pour ça qu'on arrive à se dépasser et à exploser tous les scores aujourd'hui.
Ouais. C'est marrant cette question de mindset là que j'entends. C'est ça, quand moi j'en ai parlé avec mon alternante, c'est ça qui a été décisif. Il y avait un obstacle.
Tu as vu mes yeux quand les gens t'ont dit de la jarter ?
Ouais, ouais.
J'ai fait.
Et ce qui est dingue, c'est qu'il y avait un obstacle qui était, bon bah voilà, on a un problème. Donc moi je l'ai impliqué dans le problème en lui disant, bah voilà, en fait, c'est pas que mon problème,
c'est
aussi le tien du coup. Non mais alors que j'aurais pu essayer de résoudre ça toute seule en me disant, en essayant de m'arracher les cheveux, j'ai essayé un peu de l'impliquer. Et c'est là où en fait j'ai vu son mindset sur un cas concret de, il se passe ça,
on a un problème, quelle est la solution ?
Ouais, comment tu réagis ?
En fait, il faut s'entourer de personnes qui ne vous apportent pas des problèmes, mais qui, dès que vous parlez d'un problème, vous disent, ok, quelles sont les solutions ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et c'est ça la nuance.
Alors je suis entièrement d'accord, chez nous les critères de recrutement c'est pas le CV, c'est la bienveillance et l'état d'esprit super positif, orienté, solution.
Quand je travaille dans le recrutement, en fait souvent on recrute mal parce qu'on recrute au feeling. Donc on pose la personne sur une table, une chaise et on lui dit on discute. Finalement ça nous permet d'évaluer quoi ? Ça nous permet d'évaluer le capital sympathie de la personne. Ça nous permet pas d'évaluer ses compétences ou son savoir être entre guillemets, en tout cas sa personnalité. On dit savoir être mais en fait ça n'a pas trop de sens, on dirait plutôt personnalité. Et ce que j'ai appris à l'école du recrutement, c'est que une des meilleures manières d'évaluer une personne, c'est de la mettre dans une situation concrète. Parce que là, les personnes qui vont se penser différemment de ce qu'elles vont dire, ou les personnes qui vont dire différemment de ce qu'elles pensent, on le voit tout de suite. Parce que on est face à une situation qui est concrète. Et une astuce que j'avais retenue, c'était de poser des questions qu'on appelle situationnelles ou comportementales, c'est-à-dire, imagine que il t'arrive ça, comment est-ce que tu réagis ? Ou raconte-moi une fois où il s'est passé ça. Et dans le « ça », tu mets une situation compliquée. Raconte-moi une fois où ta manager t'a appelé en te disant qu'elle s'était trompée dans la partie admin de ton alternance et qu'en fait, elle est en panique parce qu'elle ne sait pas comment elle va te payer. Voilà. Et ça, c'est vrai que ça m'a aidé. Et le fait d'avoir une situation concrète, là, ben, ça permet aussi de voir comment la personne concrètement, elle va être et elle va se comporter et quel est son mindset.
Quel a été le moment où vous avez eu le sentiment de prendre un risque maximal dans votre parcours entrepreneurial ?
Le jour où j'ai embauché quelqu'un que j'ai payé plus que moi.
C'est pas mal, j'aime bien.
J'ai recruté mon directeur commercial en octobre 2017. On en a discuté en juin. Il est arrivé chez nous en octobre 2017 et c'était clairement un risque que je prenais. Et pour lui, c'était un pari qu'il prenait puisqu'il était directeur d'une usine de plus de 3000 personnes. Il était extrêmement bien payé. Tout se passait bien. Il travaillait pour le numéro 2 chinois de l'extension capillaire. Mais c'est quelqu'un que j'avais déjà rencontré par le passé qui avait été un de mes premiers distributeurs. On avait noué un lien amicalo-professionnel. J'invente même des mots aujourd'hui. Et donc du coup, en fumant une cigarette sur le parking, parce que je suis venue lui demander un conseil, je lui ai dit, bah, c'est peut-être si on travaille ensemble, ça ne te dirait pas de m'aider. Et je savais qu'il était extrêmement bien payé et que ça allait être compliqué. Et il m'a dit, bah ouais, en fait. Et il a appelé sa femme sur le coup. Il lui a dit, bah, je vais quitter mon entreprise et je vais aller chez Secret de Loli. Donc lui, il a pris un risque. Et moi, de l'autre côté, bah, je savais que j'allais payer quelqu'un plus que moi. Et voilà. Du coup, le deal, c'était si au bout de 6 mois, il n'a pas les résultats qu'il espère, eh bien, on négocie une rupture. Mais voilà, la rupture n'est jamais arrivée. Mais les 3 premiers mois ont été chauds pour lui quand même.
Et vous, Nina, c'est quand vous avez décidé de créer votre boîte parce que vous étiez bien au chaud, salarié ?
J'étais bien au chaud, j'étais salarié et comme toute personne qui a envie, femme, qui a envie de lancer sa boîte, on lui dit attends d'avoir des enfants, reste salarié le temps que tu as des enfants, reste en CDI, reste tranquille en CDI le temps d'avoir tes enfants, un enfant, deux enfants, et puis après, tu peux te lancer, parce que comme ça, au moins, pendant ton congé maternité, t'es bien tranquille.
Je vois la tête de Kelly.
Et ce qui s'est passé, c'est que moi, au moment où je me suis lancée, bah, j'apprenais que j'étais enceinte. Et donc, j'ai lancé ma boîte en même temps que j'ai lancé mon enfant. Enfin, j'ai mis mon enfant en route. Donc, ma première année, j'ai passé 9 mois enceinte, dont les 3 premiers mois à avoir des nausées, avec des visios, avec mes clientes à qui je vendais un produit qui s'appelle le Bootcamp. Et je me souviens qu'on conseille aux femmes de manger du gingembre pour pas avoir la nausée. Donc, je me gavais de gingembre sous toutes ses formes, quoi. Ça ne marchait absolument pas. Et je me disais, mais Nina, est-ce que tu as vraiment fait le bon choix ? Et en même temps, il y a cette énergie entrepreneuriale de se dire, bah, on est à zéro, il faut qu'on y aille. Dans 9 mois, je vais avoir un enfant. Donc finalement, ça a été un moteur parce que je me suis dit, bah, en fait, j'ai 9 mois pour créer une boîte rentable. Et finalement, en 9 mois, bah, j'ai fait 200 000 euros de chiffre d'affaires. Donc ça m'a permis de mettre de l'énergie, d'avoir un compte à rebours que je ne me serais peut-être pas mise toute seule. Et au final, les nausées, heureusement, se sont arrêtées. Et aujourd'hui, je suis très heureuse d'être la maman de Léon. Ça a été une petite aventure, ouais, clairement, de lancer sa boîte. Et je me suis dit que je prenais un risque. Mais c'est surtout, je me suis dit que je prenais un risque à cause de ce qu'on me disait autour, en fait. C'est pas moi qui ai intégré le risque. J'entendais autour de moi, oh, mais t'es complètement folle. Oh, non, mais tu devrais pas. Oh, non, mais attends d'avoir ton premier enfant et ton deuxième enfant. Enfin, vraiment des choses qui étaient assez aberrantes.
Question, ces gens-là, ils étaient entrepreneurs ?
Aucun.
Aucun. Parce que vous, Kelly, en fait, au moment de la grossesse aussi, ça vous a boosté.
Il y a quelque chose que j'entends beaucoup autour du discours des femmes, c'est mon entourage m'a dit que, on m'a dit que. Et en fait, il faut arrêter de traîner avec des salariés si vous voulez être entrepreneur. Il faut arrêter de demander des conseils à des gens qui ont planté des boîtes si vous voulez construire quelque chose. Ce n'est pas forcément les meilleures personnes vers qui se tourner. En fait, il y a une émulation.
Mais il faut s'écouter soi.
Il faut s'écouter soi, mais je pense que ce n'est pas dans un processus de création. Ça l'est quand vous avez lancé votre boîte et que vous vous posez des questions et que vous vous dites, bon, là, j'ai une situation un peu tendue. Donc là, aller voir quelqu'un qui a subi un échec et quelqu'un qui a subi un succès, là, ça a du sens. Mais dès le début, avant même de se lancer, avoir des gens qui ont cette négativité et qui mais ne savent rien du monde de l'entrepreneuriat, pour... on a tendance à les demander, je ne sais pas, ses copines, elles sont toutes salariées. Quand vous êtes malade, vous allez voir un médecin, un spécialiste, vous n'allez pas voir le boucher du coin. Et bien, c'est exactement la même chose, en fait. Et le pire, c'est que ces gens-là ne retiennent pas leur langue. Donc, en fait, c'est leur propre peur qui vous envoie en plein visage. Et dans ces cas-là, vous ne faites rien. Moi, j'ai entendu, mais le moment idéal pour lancer sa boîte, c'est quand on n'a aucune charge. C'est quand on n'a pas d'enfant à nourrir. Enfin, pour moi, c'est le moment idéal parce qu'en fait, on ne se met dans une situation inconfortable que tout seul, voire avec son conjoint, si on en a un. Donc, avoir un bébé, quand on crée, c'est bien parce qu'on est dans un processus créatif. Ça nous permet d'avoir une deadline. C'est une surmotivation. Et en plus, on est plus créatif et on est, voilà, il y a des choses. Et puis, on s'habitue au manque de sommeil. Les deux vont ensemble.
C'est ça, exactement.
Tu aurais passé des nuits blanches pour ta boîte, bah là, tu partages les deux, c'est génial.
C'est exactement ça. En attendant qu'il se réveille, je fais mon business plan. Mais c'est quoi, la prochaine fois, je te contacterai.
Avec plaisir, je suis là.
Et toutes les deux, j'ai remarqué que vous étiez convaincues qu'il n'y a pas de raccourci pour gravir la montagne, qu'il faut manger son pain noir.
Bah oui, oui, totalement. Enfin, alors, c'est facile de dire ça après 13 ans. Hein. Je conçois que quand ça vous arrive en pleine face, c'est pas comme ça que vous le gérez. Mais aujourd'hui, maintenant que j'ai avancé, j'attends juste le prochain problème à régler et de comment je vais l'aborder. Alors qu'avant, c'était... ça va être quoi encore qui me tombe dessus ? Non. Donc ça, c'est très important. Ensuite, j'aime bien dire que c'est une porte qui ouvre une porte qui ouvre une porte. Et mon DG m'a souvent dit, comment tu veux apprendre à gérer une boîte qui vaut 60 millions ou 70 millions d'euros si tu ne sais pas gérer une boîte qui en fait 100, 200 ou moins d'un million ? C'est pas possible. Arrêtons de vouloir cramer les étapes. Parce que si, par exemple, ça ne m'était jamais arrivé avec mon apprenti, si j'avais pas connu cette crise avant de se caler, eh ben, j'aurais pu m'effondrer. Alors qu'aujourd'hui, ça m'a permis d'avoir des bases solides qui font que je suis sereine sur bien des situations bien plus importantes et graves qui se sont passées derrière. Je suis désolée, hein, mais le Covid est arrivé, les ruptures de stock pour certains, la guerre, etc., etc. Ça a de l'impact ou ça n'a pas de l'impact. Le canal de Suez, quand il est resté bouché, ça a eu de l'impact pour tout le monde, etc., etc. Et en fait, finalement, tu te rends compte que tu prends de la hauteur et que les situations compliquées professionnelles m'ont permis de faire preuve de confiance. confiance en moi et de montrer mes skills, mais aussi les emmerdes qui peuvent arriver dans ta vie personnelle, qui, elles, te forgent. Et j'ai tendance à dire que si ma vie personnelle ne m'a pas brisée, parce que je suis née dans une famille extrêmement difficile, ma mère a essayé de m'assassiner à l'âge de 5 ans, en m'étranglant, bref, etc., etc. Si j'ai tout ça ne m'a pas tuée, ma vie, c'est pas un business qui va me ruiner, mais franchement. Un business, c'est rien. Vous arrêtez, demain je retourne au salariat, c'est pas grave, je remonte une autre boîte. Il y a bien plus grave dans la vie. Et c'est ça, en fait, que je dis par manger son pain noir. Si tout ce que j'ai vécu dans ma vie privée ne m'a pas détruit, c'est pas un business qui va me détruire.
Tout à fait. Oui, alors enchaînez là-dessus. Effectivement, oui, le business, c'est du chaos. Enfin, vraiment, en fait, c'est savoir naviguer dans le chaos. Je pense pas qu'il y ait... Manger son pain noir, ça implique qu'à un moment, t'arrêtes et qu'à un moment, il y ait une fin, que ce soit une situation qui soit dure à gérer pour le moment et qu'elle ait un début et une fin. Alors que je pense qu'il faut juste apprendre à aimer ça. C'est-à-dire à naviguer dans le chaos. Il y aura toujours des situations chaotiques, plus ou moins importantes, plus ou moins grandes. Mais ce qui est important, c'est d'apprendre à naviguer avec ce chaos-là et avec cette incertitude-là. Donc je pense que ça demande beaucoup de prise de hauteur, comme ce que vous dites, Kelly. Je suis totalement d'accord avec ça. Et pareil, en fait, je pense qu'il y a aussi le fait que... on prend de la hauteur sur autre chose qui est que la vie qu'on a en tant qu'entrepreneuse, bah, c'est aussi une vie qu'on peut un peu choisir. On a le luxe de pouvoir un peu choisir nos problèmes. Je vois Kelly qui a monté une boîte qui fait plusieurs millions d'euros avec plusieurs dizaines de salariés. Et moi, pour le coup, bah, j'ai choisi un business model où je suis seule, je suis solo, probablement que j'embaucherai jamais plus d'une personne, probablement que j'embaucherai pas en CDI. Et on peut aussi choisir un peu ses problèmes. C'est-à-dire que...
Comme 95% des entrepreneurs en France.
Exactement. Et on peut aussi choisir ses problèmes comme on peut choisir de vouloir faire une licorne. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent faire une boîte, un SaaS ou une application, mettre des milliers de personnes dessus et puis la revendre potentiellement des milliards. Il y a 1% de chance que ça marche, ok, mais c'est leur business model, ils vont aller lever des fonds, etc. Donc en fait, c'est ça la chance qu'on a en tant qu'entrepreneuse, c'est qu'on peut choisir un peu ses galères.
Exactement, et il n'y a pas mieux ou moins bien, c'est juste un choix à faire quand on est entrepreneur. Je voudrais parler de votre relation à l'argent, parce que toutes les deux, vous parlez d'argent de façon cash. Toutes les deux, vous ne vous êtes pas payées pendant un temps, c'est exact.
Oui, Kelly, totalement.
Massol.
Oui, totalement. Je ne me suis pas payée au début. Ensuite, je me suis payée l'équivalent d'un SMIC, même quand j'ai eu deux enfants. Pour moi, en fait, c'était un investissement dans ma boîte et c'est un investissement sur moi-même. C'est un pari que j'ai fait. J'ai toujours regardé avec un certain regard ces personnes-là qui, l'argent arrive et ils le dépensent tout de suite. Alors, soit dans leur boîte sur des choses qui ne sont pas forcément, je ne dirais pas nécessaires, mais vitales. Et c'est ce qui a fait aussi qu'on a eu une excellente rentabilité, une très belle valorisation. Voilà, ça a payé bien plus tard.
Et un LBO, c'est-à-dire que pour la première fois, vous venez d'ouvrir votre capital.
Oui, alors au début, je partais pour une levée de fonds. Et puis finalement, on m'a dit, non mais ma cocotte, t'as les chiffres de la tech, c'est pas possible. Donc, ce sera un LBO. Donc, ça veut dire qu'on va plutôt t'acheter des parts, puisque tu détiens 100% de ton capital. Et puis, on va injecter dans la boîte. Et puis, tu vas éventuellement faire un cash out. Donc, oui, totalement.
Donc, récupérer personnellement.
Récupérer tout cet investissement de toutes ces années.
Et vous, Nina, ramène votre rapport à l'argent en quelques mots?
Alors oui, c'est vrai que moi c'est pas du tout un tabou. De la même manière, moi je me paye pas sur ma boîte. Et d'ailleurs j'ai une boîte rentable depuis le jour 1. Donc ça c'est quelque chose qui a été tout de suite très important pour moi.
Vous ne vous payez pas parce que Pôle emploi, c'est ça? Alors, meilleur fournisseur officiel de toutes les créations d'entreprises.
C'est
en
ça.
France.
En fait, on a la chance de vivre dans un système que moi je trouve génial et que je trouve extraordinaire pour l'entrepreneuriat, qui fait que on peut bénéficier des aides de retour à l'emploi, du chômage, tout en lançant sa boîte, en créant de la valeur. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, moi j'ai fait le choix de vivre sur mes indemnités que j'ai cotisées et de garder l'argent dans ma boîte et de faire des investissements. Donc ça me permet effectivement d'avoir une boîte qui est rentable, qui génère beaucoup de cash. Après, il y a des gestions de trésorerie à faire parce que tout l'argent reste dedans. Donc en fait, ça s'accumule pas mal. Et donc derrière, après, il faut gérer le bilan parce qu'on a ce qu'on appelle l'impôt sur des sociétés. Quand on sort pas d'argent de sa boîte, ben en fait on peut avoir des boîtes. C'est même pas moi, c'est ma boîte. Et moi j'ai appris quelque chose de l'entrepreneuriat, c'est que l'argent de ta boîte c'est pas ton argent. L'argent
Merci.
De ta boîte c'est pas ton argent. Quand je dis que je fais 250 000 euros de chiffre d'affaires par an, ben c'est pas 25 000 euros là. Là je suis passée à vers 25 000 euros par mois. C'est pas 25 000 euros qui tombent dans ma poche globalement. Pour sortir l'argent d'une boîte, il y a deux manières. Soit on se verse ce qu'on appelle des dividendes, soit on se verse ce qu'on appelle une rémunération. Et dans un cas comme dans l'autre, y a dans le cas du salaire, il y a ce qu'on appelle des cotisations, donc qui nous permettent d'avoir le système de santé qu'on a, et dans le cas des dividendes, il y a aussi un système d'impôt sur les sociétés. Bref, tout ça pour dire quoi ? Pour dire que l'argent de ma boîte, c'est pas mon argent, je peux pas aller m'acheter des Nike avec, c'est pas possible. Donc ça, c'est déjà en termes de culture et de business, quelque chose à savoir et qu'on peut découvrir quand on arrive dans l'entrepreneuriat. Donc ça, c'est la première chose.
C'est une réalité.
C'est une réalité. Et la deuxième chose, c'est que moi, je vais mettre un maximum, tant que je suis dans la situation où je peux investir dans ma boîte, comme Kelly, je me dis, en fait, j'ai envie d'investir un maximum, de faire grandir ma boîte un maximum avant moi de peser en tant que charge, entre guillemets, dans ma boîte, c'est-à-dire d'avoir une ligne de salaire parce que c'est ce qui coûte le plus cher. En gros, pour que toi, tu touches un, il faut que la boîte, elle verse deux. Donc tout de suite, ça tombe et ça commence à devenir très très cher pour la boîte. Donc moi, je vais essayer de repousser un maximum ce moment pour laisser toute l'opportunité à mon business de décoller.
On va passer à un portrait chinois. Je vais vous demander de répondre au tac au tac à quelques questions. Si vous vous croisez vous-même à l'âge de 20 ans, qu'est-ce que la personne de 20 ans vous dirait en vous regardant ?
Bien joué.
Waouh.
Ce qui vous ressource ?
Moi, être toute seule, regarder des vidéos YouTube, être dans mon lit, vraiment apprendre, mais seule.
J'allais répondre la même chose, être seule. Mais ça, c'est quand t'as des enfants. Être seule.
L'encouragement qui vous a donné des ailes.
Fonce parce que tu es la future Carole d'auteur.
Je pense que c'est celui que je reçois tous les jours des personnes qui me suivent. Tous les jours, j'ai au moins un message ou deux messages de personnes qui me disent « Ah, tu m'as apporté ça. Ah, tu m'as aidé à faire ça. Ah, regarde le texte que j'écris. Sans toi, j'aurais pas pris la parole. » Donc ça, c'est vraiment le meilleur encouragement que je peux avoir.
Qu'avez-vous accepté de la vie ?
J'ai accepté de perdre des choses.
D'échouer.
Votre mantra ?
C'est celui de ma boîte, Always With Love.
Apprendre tous les jours.
Merci Kelly Massol, merci Nina Ramen, merci à vous qui nous écoutez. Un immense merci à Camille Codor et Marie Jaworski. Merci à Sandrine Dao, Zaya Cassel et la Dream Team des Échos pour l'organisation. Si vous avez aimé ce podcast, je vous remercie de le préciser avec un 5 étoiles. Cela nous aidera à continuer sur cette voie. Merci vraiment pour vos commentaires aussi que j'ai hâte de lire. Rendez-vous dans un mois pour un nouveau podcast Elles ont osé avec les Échos. D'ici là, gardons précieusement en nous cette citation de Goethe qui correspond si bien à l'esprit de ce podcast. Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.